Maurice Rollina, Le manoir tragique. Une nuit, j'ai eu ce rêve d'impressions et visions, si logique, si cousu de lucidité, de suite et de vraisemblance, que je le garde à jamais comme le souvenir de ma plus grande terreur soufferte, de ma pire stupéfaction vécue. C'était l'hiver. J'étais couché sur un lit rouge à baldaquin fauve, en la principale chambre d'un très ancien manoir féodal, au fond d'une immense pièce tendue de noir, dans laquelle, sous l'œil clair, suiveur et harponnant d'innombrables portraits de la famille, deux colossales cheminées, flamboyantes, se regardaient face à face, faisant danser leurs ombres d'enfer sur le plancher, la voûte et les murailles sinistres, ensanglantant de mille reflets écarlates le vitrage nu des gigantesques fenêtres où dans l'âpre et la difformité de sa chauve noire terreur transparaissait comme un chaos de feu, tout un hideux fouillis de rocs et de forêts. Mais ce qui ajoutait encore au fantastique démoniaque de ces deux monumentales cheminées, c'est que devant chacune d'elles, étincelant de leur fournaise, haut et droit sur un grand escabeau de l'époque, se tenait assis, lourd et rigide, un personnage tout en acier, un chevalier fixe et lugubre, hermétiquement, et partout bardé de cuirasses qui, de plus en plus embrasées, semblaient luire et brûler, aussi ardentes que les charbons eux-mêmes. Ces deux êtres, têtes retournées l'une vers l'autre, avaient le visage complètement dérobé sous leur casque à plumes noires qui ne laissaient filtrer que les flammes de leurs yeux. Mais si naturel de jaillissement implacable, acéré, si fréquent, féroce étaient ces effrayants regards, que de mon lit, des profondeurs de la salle, je les voyais qui se décochaient tout le haineux de leur confrontation, qui se croisaient et se défiaient mortellement comme deux éclairs ennemis. D'ailleurs, leurs armures, toutes dégouttantes de sang, non moins que le spectacle de leur apparence, révélait suffisamment aux esprits cadavres qui, posturés par le rêve, continuaient dans la mort les reproches de leurs griefs et la furie de leur détestation. Distinctement, tout à coup, j'entendis un son de harpe, un son grêle, vieillot, mais pénétrant, juste, goutteleusement fin musical, d'une limpidité profonde, ouatée, aussi impressionnant que le battement d'un cœur qui ferait toc-toc à côté de vous. Qui donc pouvait ainsi promener ses doigts sur les cordes de l'instrument, puisque, de par les renseignements de mon rêve, je me savais seul existant dans ce domaine inhabité? Le son partait de la chambre voisine. Je me levai précipitamment, mais il fallait traverser l'immense pièce d'un bout à l'autre, et ce ne fut qu'en frémissant que j'osai m'y aventurer, en marchant, en glissotant, en rampant plutôt, à pas muets, les bras collés au corps, le souffle retenu, comprimé comme mon geste. Je hasardais mes yeux sur ces murailles mortuaires d'où se dardaient sur moi tout autant de regards magiques, et je m'aperçus que, seul parmi ces frissonnants portraits, trois immenses cadres de chêne et d'or massif, à sculpture bombée et verdeur, montraient leur vide blanchâtre, totalement tissé qu'il était d'énormes toiles d'araignée. Et en passant entre les deux spectres, Avec quel recul et quelle sueur d'épouvante! Je dus fermer les yeux pour ne pas, me semblait-il, être aveuglé de lumière et d'horreur. Mais une maladive curiosité, plus despotique et plus forte que la peur elle-même, me fit les rouvrir et, m'arrêtant quelques secondes, je remarquai que les chevaliers fantômes avaient cessé leur terrible duel du regard. Maintenant, chacun avait retourné le cou du côté de la cheminée, et comme engouffrés dans une méditation insondable, ils inclinaient sur leur poitrine leur tête mystérieuse, masquée deux fois, enfouie encore sous leurs gantelets de fer qu'ils tenaient rudement appliqués sur leur face, d'un air consterné, fatal, figurant l'infini regret par le deuil et la prostration de leur pose, croupissant là, dans leur positive immobilité, comme deux monstres et deux mornes statues de la honte et de la prière. Enfin, j'arrivai à l'autre chambre et j'en poussai la porte. Une harpe debout, dont je vis nettement s'écarter et vibrer les cordes, jouait là, toute seule, les plus navrants des lamentos, et toutes les notes s'égrenaient, si douloureuses, si liquides, si perles pleurantes, que je croyais entendre un mélodieux goutte à goutte de larmes tombant une à une dans l'admiration du silence. Personne visible à mes yeux. Et cependant, je sentais une présence dans la chambre vide. Mais l'instrument se tut. Je regardais, niais, plein de frissons, ma couche ensorcelée, et quand je repassais entre les deux apparitions, je les retrouvais comme je les avais vues tout d'abord, la tête tournée l'une vers l'autre, se provoquant et se maudissant du regard. Mais pourquoi une telle exécration entre ces deux êtres? Pourquoi? Me répétais-je en tremblant et claquant des dents sous mon baldaquin funèbre. Et je m'entendais dire tout bas: Oh, je me risquerais à tous les effrois, j'encourrais la peur suprême pour savoir la cause affreuse qui les a rendus l'un pour l'autre si farouchement abominables. Mes yeux, agrandis par l'angoisse et la stupeur, voyaient-ils aussi plus creux et plus loin? Un charme agissait-il sur eux? Assurément, je percevais tous les moindres détails de l'énorme salle, puisque sur les murailles de plus en plus illuminées par les deux fulgurants brasiers, comme aussi de plus en plus possédés par les stridents regards, les énigmatiques figures peintes, je venais de surprendre dans les yeux de ces portraits un changement immédiat, un œil d'adoucissement, expression d'attente, de tristesse et de recueillement. Soudain se fit entendre, accompagnée de la harpe, une voix humaine, une voix de femme, qui se mit à gémir des chants si somptueusement étranges, passionnés et funèbres, que, me sentant pleurer, je m'aperçus qu'autour de moi, tous les portraits versaient des larmes. De nouveau, je me ruai vers la chambre voisine, certain d'y trouver l'exécutant d'une pareille musique, et juste à ce moment, les cheminées s'éteignirent et les revenants disparurent. J'entrai, et cloué sur place, dans l'angle de la porte, figé, glacé de partout, j'assistais à cette chose inoubliable. Entre les deux chevaliers, dont le casque, béant cette fois, découvrait mélancoliquement les majestueuses figures blêmes, l'une d'un adolescent, l'autre d'un homme déjà mûr, une jeune dame, tout en blanc, les cheveux épars et auréolés de jaune, pinçait en gémissant les cordes de sa harpe. Leurs trois figures, trois traits, jusqu'à la même couleur des yeux, s'accordaient, s'appareillaient si parfaitement qu'elles formaient le trio de la ressemblance de famille et de race dans la plus miraculeuse identité. Oh, je le connaissais à présent, le pourquoi de cette rage d'inimitié qui persistait encore par-delà les siècles de tombeaux. Je devinais leur sauvage tragédie d'inceste et de mort. Ils avaient aimé d'amour, séduit et souillé celle qui était là, leur fille et leur sœur, dont précisément la toilette de mariée me racontait qu'ils avaient d'abord égorgé son mari et s'étaient ensuite entretués pour elle le jour même de son mariage. Oh oui, c'était bien cela. Et si j'avais vu trois cadres vides, c'est qu'ils étaient ceux d'où la famille avait banni leur portrait, les jugeant à tout jamais indignes d'y figurer sur les murailles de la grande chambre d'honneur. Mais la harpe tomba avec un bruit plaintif à côté de la jeune dame dont le pouvoir de sa musique sanglotante, autant que les supplications de ses regards, avait enfin fondu les cœurs de roc restés haineux jusque dans l'autre monde. Et voilà que, sous un grand Christ étendant sur eux ses bras décharnés comme pour les bénir, ayant enlevé entre deux la femme blanche agenouillée, les chevaliers se penchèrent l'un vers l'autre en signe de réconciliation, et d'un geste à la fois pardonneur et grave, ils joignirent silencieusement leurs mains de métal, tandis que poussant un tendre et long soupir qui retentit jusqu'au fond de mon être, la coupable amante de ces terribles rivaux de la passion criminelle montrait, dans le déluge de ses larmes, le sourire pâmé du repentir en extase. Je voulais leur crier le saisissement apitoyé de mon âme, si touché d'une pareille scène, leur dire le respect et la piété de mon épouvante. Mais je ne vis plus, formant une croix couronnée d'immenses portelles, qu'un gisement de sanguinolentes armures, qu'une robe et un voile blanc devant trois petits tas de cendres.